Je reprends mes considérations, qui évidemment ne sont pas des sont pas professorales, tiennent à ma personne, sur les raisons que j'ai depuis toujours d'aimer les romans de Modiano. Je vous disais à l'instant, aimer ces formats brefs, que je trouve élégants. J'aime sa pudeur en matière d'évocation de l'amour, d'autant que, me semble-t-il, notre époque est... nage au plan littéraire en pleine pornographie. Chez Modiano, les choses sont très élégamment suggérées. Il y a juste un roman où le terme horrible de fesse est proféré, la fesse d'une femme, sur laquelle se trouve un grain de beauté. Bon, c'est sur une quarantaine de romans, c'est le seul endroit, et c'est un roman ancien. Et il s'est depuis purgé de ses envies de détailler les choses de l'amour. Je trouve aussi très originale cette œuvre, cela je vous en touchais mot la fois passée, écrite par un écrivain né le 30 juillet 1945, donc après la libération de Paris, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et cet écrivain ne cesse d'être obsédé par ce qu'on appelle maintenant les années noires, les années de la collaboration, de l'occupation, 1940-1944-45. C'est une sorte de démarche éminemment anachronique. Et ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il donne le sentiment d'évoquer des souvenirs, puisqu'il y a un luxe extraordinaire de détails. Et se dit-on, c'est le survivant de ces années-là qui écrit, mais il n'en est rien. Tout procède d'une information qu'il a acquise en interrogeant ses parents, quand son père était là, sa mère, si elle voulait bien répondre, et quand elle était là, puisque c'était une comédienne, qu'elle était très souvent absente, faisant des tournées, surtout, il a acquis par les livres et par la presse dont il est collectionneur, parce qu'il lui arrive de citer une coupure de presse, d'un journal parisien de 42-43, ce n'est pas trouvable sur Internet, les collections sont incomplètes à la Bibliothèque nationale, où a-t-il trouvé cela? Donc il entasse des papiers chez lui. Il a toujours... Cela, j'en suis sûr. Bon. Les photos de presse que vous voyez le représentent toujours sur fond chez lui, dans ses domiciles successifs, sur fond d'une bibliothèque débordante de livres et de papiers. Et je vous disais que pour l'un de ses livres, qui n'est pas un roman mais un récit, le récit intitulé Dora Bruder, du nom d'une jeune fille juive disparue en déportation, après une fugue à Paris, elle est raflée, et elle et ses parents disparaissent. Modiano s'est passionné pour cette jeune fille, qui était fugueuse, comme lui-même jeune l'avait été. Bon, je vous disais que pour ce livre, il a acquis la collaboration de cet historien des années d'occupation, qui est Serge Klarsfeld, l'auteur de la liste effrayante des victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah. Donc il y a là une sorte d'étrangeté. Il avait 18-20 ans au moment où était à la mode, quand il faisait ses études, la littérature existentialiste, qui se prétendait, n'est-ce pas, être engagée en son temps et témoigner de son temps, lui a choisi un temps antérieur, et j'évoquais le mot d'un critique littéraire ayant consacré sa thèse, d'un universitaire ayant consacré sa thèse à Patrick Modiano, qui faisait sienne l'extraordinaire et admirable expression de Gérard de Nerval sur l'épanchement du rêve dans la vie réelle. Et cette université disait que chez Modiano, il y a comme un épanchement des années de l'occupation dans la vie réelle, puisque la plupart de ses romans se déroulent à l'époque où il les écrit. Donc vous avez, lui-même, Modiano, et une autre expression, un temps parallèle. Alors le temps parallèle, c'est celui des années noires. Mais les parallèles, bizarrement, n'est-ce pas, convergent. La ligne d'aujourd'hui et la ligne d'hier ne sont pas si parallèles que ça, puisqu'elles se croisent, qu'elles se brouillent. Hier déborde dans aujourd'hui. Donc au plan de l'invention romanesque, je trouve qu'il y a là quelque chose de tout à fait fascinant. Ces livres disent tous les efforts d'une mémoire. Alors évidemment, la critique, notamment journalistique, a évoqué le grand nom de Proust. Cela me paraît assez insuffisant. Modiano a parfaitement lu Proust dans les moindres détails. Il vaudrait mieux aller se promener du côté de la philosophie et du côté de Bergson, messieurs les philosophes. Bon, puisque la mémoire volontaire, la mémoire involontaire sont à l'œuvre dans les romans de Modiano. Et puis, vous avez ces souvenirs dormants, c'est le titre d'un de ses livres. La mémoire est assoupie. Alors, elle est assoupie faute d'exercice, parce que ce qu'elle aurait dû mémoriser est déjà très ancien, mais aussi parce que la mémoire est gangrénée par une sorte de mauvaise foi. Nous n'avons pas intérêt toujours à nous souvenir de tout. Et il y a dans notre passé, ou dans celui des gens qui nous sont proches, il y a des endroits, des zones, qui, si l'on s'en souvenait précisément, deviendraient insupportables, brûleraient. Donc, comme disent les psychologues, on refoule. Et c'est très présent, cela, dans quantité de livres de Modiano. Il est très attentif aussi à ce phénomène qu'a bien étudié Bergson en matière et mémoire, le souvenir du souvenir. Nous croyons nous souvenir, mais notamment, n'est-ce pas, de ce qui est le plus ancien dans notre vie. Mais ce souvenir, le plus souvent, sans que nous le sachions bien, n'est jamais que le souvenir d'un endroit de notre vie où nous eûmes ce souvenir, hein, d'un passé antérieur. Et nous abrogeons l'étape et nous nous imaginons nos souvenirs. Moi qui vous parle, j'ai un souvenir, il est mort quand j'avais 4 ans, mon grand-père, l'un de mes grands-pères. Je me souviens d'être sur ses genoux et il me raconte un conte de Perrault. Je suis épouvanté, je file dans la cuisine. Alors j'ai cherché, j'ai interrogé mes proches, j'avais 2 ans, est-ce possible que je garde ce souvenir-là? C'est plus vraisemblablement le souvenir d'un souvenir. Je me suis souvenu, à 4 ans, à la mort de mon grand-père, ou après, quand on m'en parlait encore, je me suis souvenu qu'un moment, il m'avait épouvanté avec l'histoire de Barbe Bleue, qui est sans doute une des plus intéressantes de Charles Perrault. Oui. Profonde, mystérieuse, épouvantable à souhait. Bon, de quoi faire rêver les enfants, surtout les petits-enfants. Alors, chez Modiano, l'on se demande si, chez lui, les narrations portant sur le passé ne sont pas des souvenirs de souvenirs. Toutes les brumes, tous les brouillards, tous les à peu près, les incertitudes affectant la mémoire se trouvent évoquées chez Modiano. Alors j'aime la littérature, comme vous vous en doutez, j'aime beaucoup les livres portant sur le passé. Je suis féru d'autobiographies, de récits d'enfance et de jeunesse. J'aime le roman proustien avec tout le déploiement somptueux de pages et de pages sur le passé, l'impossible retour du passé, le retour souhaité ou détesté du passé, etc. Tout cela, n'est-ce pas, chez Modiano, qui est éminemment littéraire, me fascine. J'ajoute que j'ai été toujours fidèle à cet écrivain, alors cette fois pour des raisons étroitement biographiques. Il s'est trouvé, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai beaucoup croisé, frôlé, rencontré 1000 fois. Il habitait, dans les années 70, mon quartier, à 2 pas. Et l'aîné de mes enfants était en classe avec l'aîné de ses filles. Donc ma fille allait jouer chez Zina Modiano. Elle me racontait quel était le comportement de cet excellent père, très épris de ses 2 filles, très bon époux et très bon père. Elle me disait, oui, ne nous parle pas, il passe en rêvant, il va d'une pièce à l'autre chercher un bouquin, chercher un papier. Madame Modiano, qui est tout le contraire, lui, est timide, introvertie, distant, elle est chaleureuse, vive, aussi petite, fort jolie, précise et active que lui, et qui est un fort beau garçon, et lointain, distant. Et Madame Modiano nous disait, me racontait ma fille, de ne pas faire de bruit pour ne pas déranger Patrick, qui était en train d'écrire je ne sais quoi, un roman très, très certainement. Donc c'est une raison personnelle. Lui, il n'était pas question de nous rencontrions, ma femme, lui et sa femme, on allait prendre un pot au café du coin, en sortant de l'école. Lui ne disait mot. Vous étiez transparent sous son regard, il ne vous voyait pas, il voyait ailleurs. Et sa femme, très vive, parlait de l'école de nos filles, du caractère impossible de nos filles. Mais bien sûr, Zina et Marie Modiano, les deux filles. Zina essaye de faire du cinéma, ne réussit pas, et Marie chante et écrit des livres. Mais je ne l'ai pas écouté chanter, je n'ai pas lu ses livres. Le père m'intéresse plus que les filles. Et Madame Modiano est très active, elle crée des bijoux, et surtout, n'est-ce pas, elle gère la carrière de son époux, et elle s'occupe fort bien de lui. Je vous disais de regarder sur Internet le film tourné à Stockholm, lorsqu'il tient le discours qu'il fournit en réponse au prix Nobel. Il y a des travelling sur l'honorable assistance, bien sûr, et l'on voit Madame Modiano et ses deux filles émerveillées et très émues d'entendre Patrick Modiano parler. Il parle dans la crainte et le tremblement, visiblement. Elles en sont tellement émues qu'elles pleurent. Je trouvais que c'était une très belle scène. Moi-même, j'étais ému. Et alors j'ajoute que la teneur des intrigues de Modiano sur ses années d'occupation et la sorte de personnage qu'il évoque, proche de ses parents, de son père qui était un affairiste ou un trafiquant des plus douteux, ayant commis un certain nombre d'abominations, et sa mère était dans un pédigré, son autobiographie, il dit cyniquement « Ma mère était une jolie fille au cœur sec ». J'espère que vous ne direz jamais cela de vos mères bon, ou que vous ne serez pas en situation d'avoir des enfants, mesdemoiselles, qui diront cela de vous. C'est une formule effrayante. Cette sorte de personnage évoqué dans les romans de Modiano avait quelques raisons de m'intéresser, puisque dans ma famille, j'ai connu des gens qui, forcément après-guerre, hein, je suis natif, moi, de 1943. Je n'ai pas grand souvenir de 43 ni de 44, bon, comme vous vous en doutez. Mais dans ma famille, autour de moi, il y avait des gens étrangement discrets sur ce qu'ils avaient pu faire pendant l'occupation. Et des gens connaissant des réseaux qui, petit garçon, me paraissaient étranges. J'interrogeais ma mère, qui allusivement me faisait comprendre que ces gens étaient des plus douteux. Ils n'avaient pas eu un comportement très moral, ni très patriote, ni très civique, ni très honnête, de 40 à 44. Donc, lisant Modiano, j'ai cru retrouver des souvenirs d'enfance, de ces sortes de gens que j'avais croisés, et qui forcément m'intéressaient. J'avais l'impression, n'est-ce pas, d'être que la littérature recoupait ma vie. Alors ça, c'est une raison infime. Mais vous voyez que cela compte, hein, dans l'affection que nous portons au livre. Tout d'un coup, un livre semble nous parler intimement. Enfin, un personnage peut ressembler à quelqu'un de réel, que nous connaissons, que nous avons connu. Pas plus tard qu'hier, un ancien étudiant devenu un ami me téléphone et me parle d'une de ses tantes, morte à la Jamaïque, célibataire revêche, qui n'aimait que les chats. Elle est morte avec dans sa maison 70 chats. Une odeur épouvantable, car on a découvert sa mort qu'une semaine après. Dieu merci, les chats n'avaient pas commencé à la dévorer. Les chats étaient simplement tristes. Bon, histoire atroce. D'autant que je n'aime pas beaucoup, moi, les animaux domestiques. La veille ou l'avant-veille, je lisais un roman policier qui m'a beaucoup intéressé, écrit par la fille d'un de mes amis, et il y a exactement la même scène dans le roman policier. Cette fois, un homme qui meurt peut-être d'un suicide, de vieillesse, dans sa baignoire, et on retrouve le corps un mois ou deux mois après, et la maison est pleine de chats. Et là, les chats enfermés ont commencé, n'est-ce pas, d'abîmer le cadavre. Vous êtes dégoûté. Oui, surtout si vous n'aimez pas les chats. Bon. Ce qui est parfaitement votre droit. Donc, on a l'impression que la vie et la littérature, tout d'un coup, n'est-ce pas, se recoupent. Ce qui est troublant, et peut-être à l'origine, vous voyez, d'un attachement à une œuvre littéraire pas particulière. Alors, il reste que je ne me trompais pas en estimant Patrick Modiano. Je n'ai manqué aucun de ses livres. Je suis praticien très assidu du site que je vous indiquais sur Internet, le réseau Modiano, que tient M. Didier Cosnard, critique littéraire au Monde et spécialiste d'économie aussi. Ce site est une merveille, on y trouve beaucoup de choses. Je lis autant que je peux les ouvrages universitaires et les articles touchant Modiano. Je vous avoue être assez souvent déçu, pas par la teneur de la réflexion, mais par l'abominable jargon stylistique qui est celui de des littéraires dans l'université d'aujourd'hui. Un écrivain que l'on aime, on lit une thèse à son sujet, et l'on est accablé, n'est-ce pas, par la technicité de l'analyse, la subtilité peut-être démesurée et impertinente.